réplique, Lénine et la Révolution, avec Dominique Collat et Jean-Jacques Marie. Il y a 100 ans, tout juste, les bolcheviks s'emparaient du palais d'hiver et prenaient le pouvoir en Russie. Une lueur se levait à l'Est, la révolution d'octobre allait changer la face du monde. Nous la commémorons ces jours-ci sur France Culture. Mais commémorer, en l'occurrence, ce n'est pas célébrer. C'est faire, avec autant de patience que de minutie, un travail de mémoire et tenter de tirer les leçons historiques, politiques, philosophiques de cet immense événement. J'ai convié pour cela Dominique Collat, qui publie un Lénine chez Fayard, et Jean-Jacques Marie, auteur d'une biographie intitulée « Lénine, la révolution permanente », parue aux éditions Perrin. Et ma première question à ces deux éminents spécialistes de notre sujet sera d'ordre terminologique. Quel nom donner à ce qui s'est passé lors des derniers jours d'octobre 1917 à Petrograd? S'agit-il d'une grande insurrection populaire ou d'un putsch, d'un coup d'État magistralement exécuté? Dominique Collat.
On peut dire que, du point de vue technique, on a bien affaire à un coup d'État au sens où des soldats organisés, encadrés par les bolcheviks, vont s'emparer du siège du pouvoir et vont instaurer une nouvelle structure de pouvoir radicalement différente de celle qui existait antérieurement. C'est une insurrection dont Lénine rêve depuis le début du siècle, et qu'il a pu monter, mettre en œuvre grâce à la mobilisation de ses ressources politiques. Mais cette insurrection, elle est pour lui une insurrection révolutionnaire, c'est-à-dire qu'il s'agit de transformer profondément la société russe, et on pourrait dire que le premier signe de cette transformation va être dans la création d'une nouvelle hiérarchie de pouvoir, puisque Lénine, en prenant l'initiative en octobre 1917, va conduire le Parti communiste au pouvoir. Et évidemment, c'est un programme qui est enclenché par la même, dont les premières manifestations vont être des décrets, décrets sur la paix, décrets sur la terre, qui vont être suivis de toute une série d'autres mesures. Donc, on a beaucoup admiré l'efficacité de Lénine, aidé très fortement par Trotsky dans la prise du pouvoir en octobre, mais on ne peut pas s'en tenir, si je puis dire, à cette analyse. Ce n'est pas simplement un coup d'État réussi avec brio, c'est un coup d'État insurrectionnel qui doit déboucher et qui doit conduire à une révolution, c'est-à-dire à une transformation radicale des rapports sociaux.
Donc vous répondez à ma question en disant les deux, en quelque
sorte. Je dis les deux.
C'est en même temps une insurrection et un coup d'État, mais d'un autre côté, Lénine est aussi celui qui écrivait « La politique commence là où il y a des millions et devient sérieuse seulement où l'on compte par millions et non par milliers ». L'insurrection, à ce moment-là, on ne comptait pas par millions. Ce n'était pas des millions.
Non, on a compté par milliers, et une insurrection dont on peut toujours vanter le caractère d'exploit, mais à Petrograd, la prise du palais d'hiver s'est faite sans mort. Ça n'a pas été une démonstration simple, les soldats étaient armés de fusils, de mitrailleuses, mais il n'y a pas eu pratiquement de combat. Ça a été différent à Moscou, où quelques jours après, là, il y a eu des centaines de morts qui ont, en quelque sorte, inauguré le cours sanglant de la révolution.
Jean-Marie, même question.
Oui, on ne peut pas, à mon avis, qualifier la prise du pouvoir de coup d'État pour une raison simple. Un coup d'État, qu'est-ce que c'est ? C'est un changement plus ou moins brutal de personnel politique à la tête de l'État qui ne se traduit en général au pire que par, ou au mieux que par des petits changements politiques, mais par aucun changement social ni économique. Et là, cette prise du pouvoir, elle ne fait que couronner un mouvement qui vient du fond de la société et qui, là, engage des millions d'hommes et de femmes. C'est ce qu'a dit le monarchiste Oleg Volkov quand il raconte dans ses souvenirs, à la sortie du goulag, des profondeurs des masses populaires montait quelque chose d'effrayant qui réveillait le souvenir des jacqueries vécues par nos aïeux. C'est donc bien un mouvement qui vient des tréfonds de la société et qui aboutit à une situation dans laquelle le gouvernement provisoire laisse tout aller à volo. La Russie se disloque complètement et même le ministre de l'Agriculture socialiste révolutionnaire Tchernov écrira plus tard que, au mois d'août-septembre, il y avait un véritable combat pour se débarrasser du pouvoir et le déverser sur n'importe quelles épaules. Et il ajoute, le pouvoir qui traîne dans la rue, un pouvoir qui ne coûte rien à prendre, il suffit de se penser pour le ramasser. Donc la société s'effondrait, comme dit ce Volkov, tout profond de la société montait un mouvement gigantesque, à la fois chez les paysans, les soldats qui ne voulaient plus faire la guerre. Et c'est ce que traduisait l'homme politique, disons le chef des cadets, l'homme politique bourgeois Miliukov, quand dans son histoire de la révolution russe, il titre la période août-septembre-octobre par le titre suivant « Ou Kornilov ou Lénine ».
Et Kornilov ?
Kornilov, Gérald Kornilov, il a entrepris fin août un petit coup d'État à la fois misérable, lamentable, puisqu'il n'en a même pas pris le commandement lui-même. Il s'excusera plus tard en disant qu'il passait son temps à se moucher, donc il ne pouvait pas prendre la tête de l'envoi de la division sauvage vers Petrograd. Et Kornilov éliminé, comme dirait la palice, il ne restait plus que Lénine, parce que toute société a besoin d'un ordre, ne peut pas vivre dans le chaos permanent. Et septembre-octobre, c'est le chaos permanent. Le ministre des Transports dit, à l'automne, les trains ne marcheront plus. Le menshevik Deutsch commande cette citation en disant, mais ils disent ça, ils ne font rien. Et il dit, nous n'avons devant nous que des horreurs. Et il faut bien répondre à cette situation. Et Lénine est celui qui réussit à convaincre même beaucoup de bolcheviks très réticents à traduire cette réalité en prise du pouvoir, réticents entre autres parce qu'ils ont peur de la suite.
Alors, vous confirmez dans votre analyse ce que disait Lénine de l'histoire des révolutions en 1905. Il dit que l'histoire des révolutions révèle des antagonismes sociaux mûris au cours de dizaines d'années et de siècles. Dans le tourbillon révolutionnaire, une colère accumulée pendant des siècles s'extériorise en action et non en parole, en action de millions de gens et non pas d'individus isolés. Mais pourtant, quelques semaines seulement après la prise du pouvoir, Mandelstam publiait un poème où il disait, j'en extrais deux vers, « Quand le favori d'octobre nous préparait un joug de violence et de haine. » Et il faisait partie de ces intellectuels qui, en quelque sorte, mettaient quand même leurs espoirs en Kerensky, parce que la révolution avait lieu en février, et Kerensky incarnait, si vous voulez, une version libérale de la révolution. Alors, peut-on dire, Dominique Collat, que Kerensky n'avait plus aucune espèce de contrôle sur la situation et que l'alternative qu'il représentait n'existait plus au moment où Lénine a pris le pouvoir et peut-être même l'a cueilli comme un fruit mûr, Dominique Collat?
Je pense que Kerensky avait peu de prise sur les événements et que les initiatives qu'il a pu prendre se sont en fait retournées contre lui. Et notamment, il a voulu reconstituer une sorte de cohésion sociale par une offensive militaire contre l'Allemagne qui a échoué et qui a entraîné une insurrection dans les rues de Saint-Pétersbourg. Je pense que ce qu'on peut décrire pendant la période février-octobre, mais on pourrait sans doute poursuivre au-delà d'octobre, c'est un phénomène d'implosion dont Jean-Jacques Marie a donné quelques aspects. Et Kerensky avait très peu de prise sur la réalité sociale de la Russie, qui, je ne crois pas été marqué par une sorte de mouvement de tous vers le communisme, loin de là, mais vers des aspirations. Les paysans souhaitaient la terre, les soldats désertaient parfois avec leurs armes parce qu'ils refusaient de continuer à se battre après une guerre terrible. La guerre en Russie n'a pas été moins violente que la guerre à l'Ouest. On oublie qu'il y a eu des Verdun, si je puis dire, sur le front russe, qu'on a utilisé les tranchées, les gaz de combat, etc. Donc, la société russe était en voie de décomposition et au sein de cette société, Lénine peut apparaître comme un contre Kerensky, car lui, il peut s'appuyer sur un petit groupe, mais un petit groupe cohérent, qui le suit, qui lui obéit, qui est d'abord composé de quelques dizaines de personnes et puis qui s'élargit à quelques milliers, et ces milliers ont une action sur des soldats, sur certaines usines. Ils n'ont aucune action sur le monde paysan. Mais ils ont une capacité à mobiliser des milieux urbains et ceci va balayer, de fait, ceux qu'on peut appeler les libéraux, qui étaient des démocrates, dont on peut dire qu'ils ressemblaient, d'une certaine façon, je caricature, mais à des notables de la Troisième République, avec des idéaux qui étaient tout à fait honorables. Ils ont donné le suffrage universel à tout le monde, y compris aux femmes. Ils ont accordé la citoyenneté à tous les habitants de la Russie, quelle que soit leur confession religieuse, y compris aux Juifs. Et ils ont pris un certain nombre de mesures, mais ils n'ont évidemment pas pris de mesures sociales. Et surtout, ils étaient nationalistes. Il voulait poursuivre la guerre contre l'Allemagne. Et c'est ce ressort que Lénine a largement utilisé. Non pas que, je veux dire, que les soldats refusaient l'idée même de Russie et étaient violemment contre le patriotisme. Et ils étaient épuisés par la guerre, par la faim, par les maladies, par toutes les misères qu'on a si bien décrites pendant cette terrible guerre de 1914.
Jean-Jacques Marie.
Kerensky, en dehors des mesures que vient d'évoquer Dominique Collat, le gouvernement provisoire de Lvov puis de Kerensky n'a pris aucune mesure. Il a continué la guerre, il a effectivement annulé les mesures discriminatoires contre les nationalités, d'abord contre les Juifs, car le tsarisme en avait accumulé près de 650 contre les Juifs. Il a accordé le vote aux femmes en juin 1917 et il a, le 1er septembre, proclamé la République. Mais il n'a pris aucune mesure, quelle qu'elle soit, autre, sociale, ni politique, en renvoyant tout à l'Assemblée constituante. Et Kerensky, lui, et sauf qu'il continue la guerre, et la guerre dont la masse des soldats veut de moins en moins, et même la masse de la population, pour deux raisons. D'abord, la guerre continue à ruiner la Russie. La dette de la Russie est multipliée par 10 entre août 1917 et octobre 17. Deuxièmement, elle n'a pas les moyens matériels de faire la guerre. Le général Denikin raconte la bataille de Pchemis, qui remonte pourtant à 1915, où pendant 12 jours, les soldats russes dans les tranchées reçoivent les obus de l'artillerie allemande sans que l'artillerie russe tire le moindre obus. Ça fait des centaines de morts chez les soldats russes. Les soldats russes protestent. Denikin transmet leur protestation au général Broussilov qui commande le front. Que répond Broussilov? Comme il ne peut pas envoyer un seul obus. Il répond, mais non, il ne faut pas s'inquiéter, les obus allemands ratent en général leur cible. L'essentiel, c'est le moral. Et évidemment, c'est pas tout à fait le général Nivelle, mais enfin on n'en est pas loin. Et la masse des soldats devient de plus en plus réticente à poursuivre une guerre dans des conditions qu'en plus ils n'ont même pas les moyens de mener. Et ce régime en plus se délite complètement. Il ne prend à tel point aucune mesure sociale qu'il ne peut même pas assurer un ravitaillement à peu près normal. 4/5 du ravitaillement est destiné à l'armée et ne permet de nourrir que 4/5 des soldats. Et les trains ne marchent plus. En juillet août, 366 usines ferment. Vous avez donc un pays qui s'effondre et Kerensky se contente de faire des discours devant un auditoire de plus en plus sceptique, devant un auditoire de plus en plus hostile, et finit par reconnaître lui-même d'ailleurs que bon, il dit un jour, oh, mon rôle est fini, mon rôle, comme si c'était un acteur de théâtre.
Mon rôle est fini, bien. Donc à ce moment-là, en effet, celui de Lénine commence. Mais vous avez insisté, l'un et l'autre, à très juste titre, je crois, sur l'opposition radicale de Lénine à la guerre, entre impérialisme rapace. Et d'ailleurs, cette opposition, à un moment donné, l'isole au sein même de son propre parti. Mais ça, il l'emporte, et puis les bolcheviks vont signer la paix de Brest-Litovsk, mais je crois qu'il faut réfléchir quelques secondes sur le sens du refus léniniste de la guerre. Ce n'est évidemment pas un pacifiste, comme l'Europe en connaîtra tant après la guerre de 14-18, après le traumatisme de cette gigantesque tuerie, parce que à la guerre entre nations, il n'oppose pas la paix à tout prix, mais il oppose un autre modèle, vous insistez d'ailleurs là-dessus, Dominique Collat, qui est celui de la guerre civile. Et Lénine renverse en fait la formule de Clausewitz qu'il aime à citer, la guerre et la politique continuée par d'autres moyens. Pour Lénine, c'est la politique qui est la guerre continuée par d'autres moyens, et la guerre civile lui apparaît comme une sorte de paradigme de la politique. L'histoire, c'est l'histoire de la lutte de classe, dit-il après Marx, mais la vérité de la lutte de classe, c'est la guerre civile. Il l'écrit dans un de ses derniers textes contre Kautsky, que vous citez. Kautsky reproche aux bolcheviks d'avoir choisi la dictature, une solution par la voie militaire, une erreur, car la guerre civile ne fait pas de prisonniers, elle anéantit. Et Lénine, lui, proclame qu'il faut revendiquer le choix de la guerre civile, qu'elle est plus grave et plus cruelle que n'importe quelle autre. En effet, si les guerres entre les nations se concluent par des marchés entre classes possédantes, dans la guerre civile, la classe opprimée s'efforce d'anéantir totalement la classe oppressive, d'anéantir les conditions d'existence de cette classe. Autrement dit, il ne remplace pas la guerre par la paix, mais la guerre par une autre guerre, extrêmement cruelle, qu'il envisage même avant qu'une véritable guerre civile n'éclate. N'est-ce pas cela, si vous voulez, l'un des principes fondamentaux de la politique léniniste, Dominique? Nicolas.
Je pense qu'en effet, on peut dire que la valorisation de la guerre civile comme la raison ultime de l'histoire, comme le principe qui va permettre à la fois de faire avancer l'histoire et pour ce qui est de la guerre civile que Lénine va organiser, on va pouvoir sortir de la préhistoire de l'humanité pour organiser un nouvel ordre social, le socialisme. Pour Lénine, la lutte qu'il proclame contre la guerre impérialiste doit être transformée en une guerre civile reposant sur la défaite de son propre pays. Il souhaite que la Russie soit vaincue et que de cette défaite, comme ça s'est produit en 1905, que de cette défaite naisse un affrontement de classe sociale.
Parce qu'en 1905, il y avait la défaite de la Russie face au Japon.
Face au Japon. Et donc, il y a ce schéma, on a parfois parlé d'une forme de répétition générale qu'aurait été la révolution de 1905, et Lénine, dès le début de la guerre de 1914, il souhaite que, dans chaque pays, il y ait une défaite qui permette de transformer la guerre civile en... la guerre étrangère en guerre civile.
Tous les pays ne peuvent pas perdre.
Tous les pays ne peuvent pas perdre, donc il y a une certaine logique un peu absurde dans cette demande. Alors, je pense qu'il faut insister sur le fait que Lénine n'est pas un pacifiste, nullement. Et il est même très violent verbalement contre les pacifistes. Les tolstoïens, les chrétiens qui veulent demander qu'on mette le fusil crosse en l'air, celui-là, il est méprise, il les rejette, et il adresse même un discours qui peut paraître très étrange aux mères de soldats en disant « Vous ne demanderez pas à vos fils de mettre crosse en l'air, mais vous leur demanderez de retourner leur fusil contre leur ennemi de classe. » Et il soutient cette thèse en disant qu'il vaudrait mieux une fin pleine d'horreur à une horreur sans fin. L'horreur sans fin, c'est la continuation de la guerre et du capitalisme qui générera de nouvelles guerres. Et une fin pleine d'horreur serait ce cataclysme qu'est la guerre civile. Mais c'est un cataclysme, une catastrophe, mais qu'il affronte avec, je dirais, une sorte de sérénité, revendiquant, vous l'avez indiqué Alain Finkielkraut, la cruauté de la guerre civile. Il ne pense pas que la guerre civile puisse être en quelque sorte atténuée. Il veut au contraire qu'elle soit poussée aux extrêmes et il va donner toute une série de consignes, de conseils au parti communiste, mais aussi à ses organes de répression pour que cette guerre civile soit maximalisée.
Jean-Jacques Marie.
Lénine part du constat qu'aucune classe possédante ne se laissera déposséder sans se battre jusqu'au bout. C'est d'ailleurs ce que dira à sa manière... le général Kornilov, lorsqu'il affirmera « Même si nous devons brûler la moitié de la Russie et verser le sang des trois quarts de sa population, nous le ferons si c'est nécessaire pour sauver la Russie. » Bon, c'est clair qu'il ne voulait pas vraiment tuer les trois quarts de la population russe, mais ça fait partie de l'hyperbole traditionnelle dans les périodes de révolution et contre-révolution. En fait, il applique la phrase de l'allemand Karl Liebknecht, disant « L'ennemi est dans notre propre pays ». Et dans l'un des premiers textes qu'il publie au début de la guerre, il dit exactement « La solution la moins mauvaise pour les peuples de Russie est la défaite de leur gouvernement. Car ils considèrent que la guerre a comme fonction un nouveau partage du monde entre les possédants et les États. Et en conséquence de quoi, nul ne peut se prononcer pour le soutien de sa classe dirigeante sans aller à l'encontre des intérêts des opprimés et des exploités. Mais cela étant, il ne faut pas se tromper. Jamais les bolcheviks ne lanceront le moindre mot d'ordre de désertion Jamais. Ils n'inviteront pas les soldats à déserter, ils inviteront les soldats à fraterniser avec les soldats allemands en face. C'est-à-dire à mener une lutte politique à travers le déroulement de la guerre elle-même. Ce n'est pas tout à fait la même chose que, disons, la volonté systématique d'organiser la défaite de son propre pays. C'est un choix politique, mais que ce gouvernement ne peut aboutir qu'à une catastrophe, et plus tôt il sera éliminé, plus facile ce sera de régler la situation. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il se prononce pour la paix séparée contre laquelle sont tous les autres partis.
Voilà. Restons-en un instant à ce paradigme de la guerre civile. Parce que c'est, si vous voulez, un très grand paradoxe dans l'histoire européenne. La pensée libérale est née en Europe du traumatisme des guerres civiles religieuses. La guerre civile, le pire des maux. Et comme l'écrit Jean-Claude Michéa dans L'Empire du moindre mal, c'est cette hantise de la guerre civile qui explique la raison pour laquelle les philosophes du XVIIe et XVIIIe siècle décrivent presque toujours leur état de nature comme un état où régnerait nécessairement la guerre de tous contre tous. Et donc la question c'est comment sortir de cet état-là? Ça commence par Hobbes, qui certes est le penseur de la monarchie absolue, mais qui fonde la monarchie sur un droit, le droit à la conservation. Donc c'est pour ça que même Léo Strauss en fait un penseur libéral. Et ensuite le libéralisme s'élargit, mais voilà, on était dans cette idée, tout sauf la guerre civile. Et puis avec Marx, quand même déjà, la guerre civile revient. Elle revient comme modèle politique, parce que la lutte des classes, au fond, s'épanouit dans la guerre civile. Et ce qui est très étrange, c'est que c'est un modèle assumé en quelque sorte. C'est-à-dire, c'est comme une guerre sans aucune limite, sans aucun frein. Et on le retrouve même chez le Trotsky opposant à Staline dans leur morale et la nôtre, puisque Trotsky écrit « La guerre civile, forme culminante de la lutte des classes, abolit violemment tous les liens moraux entre les classes ennemies ». Est-ce qu'on peut pas dire que cette idée-là de la politique débouche nécessairement sur le despotisme le plus cruel, puisque précisément toutes les limites de la morale sont en quelque sorte levées quand il s'agit d'anéantir l'ennemi. Et Dominique Collat, vous citez une phrase de Lénine, une phrase parmi d'autres, « Il faut épurer la terre russe de tous les insectes nuisibles, des puces, les filous, des punaises, les riches, et ainsi de suite. » Donc, je veux dire que n'y avait-il pas d'entrée de jeu dans la vision politique du monde de Lénine une violence qui ne demandait qu'à s'accomplir.
Je pense que Dominique Collat. Quelques lignes de Lénine que vous venez de relire et que Jean-Jacques Marie cite aussi dans son ouvrage, c'est un texte de la fin de 1917, quelques mois après la prise du pouvoir en octobre. Et ce texte montre que la guerre civile pour Lénine est accompagné d'une vision de la société comme devant être purifiée. Et à mon sens, il y a la combinaison chez Lénine de deux aspects, la valorisation de la guerre civile et l'exigence de l'épuration. Il faut nettoyer, épurer, on peut traduire d'une façon ou d'une autre, le sol russe, il faut le purifier de tous ces parasites, ces vermines, ces poux, ces punaises, qui ne sont pas en eux-mêmes des ennemis qui se dresseraient contre le pouvoir, les armes à la main, mais qui sont néfastes, qui sont négatifs, qui sont dangereux, parce que ils accaparent, parce qu'ils accumuleraient des richesses, ou parce qu'ils sont inutiles par rapport à l'idéal qu'on pourrait avoir de la société. Et il y a une constante chez Lénine de revenir, jusqu'à la fin de sa carrière politique, hein, 1923, de revenir sur cette nécessité du nettoyage de la terre russe, l'épuration.
N'y a-t-il pas un lien quand même entre cette volonté d'épuration et cette vision de la politique, puisque cette vision de la politique conduit Lénine à diviser le monde en deux camps irréconciliables? C'est ce que le penseur polonais Kolakowski appellera plus tard le schéma de l'unique alternative. Et s'il y a deux camps, l'un doit vaincre l'autre. Et comme l'un des camps, c'est le camp de l'humanité, la victoire suppose en quelque sorte l'anéantissement de l'adversaire, ou demande l'anéantissement de l'adversaire.
Et il y a une logique de Lénine qui est une logique extrêmement puissante et qui revient en permanence dans ses textes, mais aussi dans ses décisions, dans les ordres qu'il donne. Cette logique, c'est de vouloir abattre les ennemis dont on peut considérer qu'ils menacent, mais d'abattre aussi des catégories sociales qui sont considérées comme néfastes. Et il faut évidemment citer les paysans riches, les koulaks, qui sont considérés non pas nécessairement parce qu'ils s'insurgeraient les armes à la main, mais qui sont comme pensés comme un groupe qui est négatif parce qu'il accumulerait des richesses et qu'il faudrait donc éliminer du sol russe.
Jean-Jacques Marie.
Oui, deux remarques. D'abord, quand on lit et quand on cite des textes de Lénine, il faut faire attention à un aspect, c'est que Lénine manie systématiquement l'hyperbole, entre autres quand il s'adresse à ses propres camarades dont il craint la mollesse, l'indécision. Et il y a de très nombreux exemples de ce type. L'un des plus frappants, c'est quand il apprend en 1920 que les communistes qui dirigent la section d'attribution des appartements aux soviets de Moscou utilisent cette fonction pour donner les appartements à leurs amis, à leurs camarades, et il envoie une note au bureau politique, il faut pendre les bandits communistes. Ou bien quand un jour, quand il arrête à la fin 1920 les réquisitions auprès des paysans, il y a 60 000 membres de détachement de réquisition, il note sur son carnet qu'en faire les fusillés. Bien entendu, il ne pense pas en fusiller un seul, et il n'en fera fusiller aucun. Ça, c'est le premier élément. Donc, il faut voir quel est l'aspect, disons, de pression sur son propre parti, sur son propre appareil, dans les mots qu'il utilise. Et ça se répète à travers toute la Révolution et la guerre civile. Deuxièmement, il tire une leçon, pour lui, de ce qui s'est passé dans la Révolution française et dans la Commune de Paris. L'affrontement a été mortel, dans les deux sens. Et donc, il considère que toute attitude faisant fi de cette réalité, supposant que ceux d'en face et ceux qui les soutiennent pourront être, disons, non pas convertis, mais apaisés par la discussion ou par les mesures prises, il pense que c'est une illusion totale. Et ceux d'en face, d'ailleurs, lui donnent raison. Je me rappelle Choulguine, par exemple, un député ultramonarchiste, décrivant ce qui se passe le 27 février 1917, lorsque la foule envahit la Douma. Il écrit, dans ses souvenirs, « Des mitrailleuses, voilà ce qu'il fallait face à ces bêtes abruties, ces petits démons haineux. Je savais que seul ce langage était compris par la rue, que seul le plomb pouvait faire rentrer dans son terrier la terrible bête qui s'en était échappée. Des mitrailleuses, qu'on nous donne des mitrailleuses. Et pour l'universitaire monarchiste Gautier, le peuple russe n'est qu'un ensemble de gorilles. » Et à l'époque, on n'en est pas encore à signer des pétitions pour défendre les rats victimes de la dératisation à Paris, ça existe, les gorilles, c'est fait pour être abattus. Donc vous avez, pour lui, il y a une sorte de constat. Et dans ce constat, il ne faut pas céder un pouce.
Nicolas, vous êtes d'accord avec cette analyse? Non.
Je pense qu'il y a effectivement des hyperboles chez Lénine à certains moments. Mais quand, en août 1918, il envoie un télégramme demandant à des militants communistes qui sont dans une province de la région de la Volga qu'on pende des paysans, des koulaks, par centaines, et que ces pendaisons soient publiques afin de créer une forme de terreur chez les autres paysans, il ne demande pas qu'on exécute dans un combat des ennemis. Il demande qu'on s'attaque à une catégorie sociale dont le seul trait, caractère, en principe, c'est d'être riche. C'est pas des combats contre les ennemis. Alors, il se peut que ces ordres sur place n'aient pas été suivis, parce que les communistes et les bolcheviques avaient peut-être d'autres idéaux que de pendre des paysans à des arbres. Mais c'est bien Lénine qui a fait cette demande, et on pourrait multiplier les exemples d'incitation à l'épuration du sol russe qu'il a multiplié.
Oui, vous voulez dire un mot?
Oui, sur ce point. Il s'agit du télégramme de Lénine du 11 août 1918. Oui. Aux communistes de Penza. 5 soldats de l'armée rouge et 3 membres des détachements de réquisition ont été assassinés. Lénine craint que Evgeny Abosh, qui est là-bas, et les communistes de Penza soient beaucoup trop mous. Donc il leur envoie ce télégramme, l'objectif étant de pendre ceux qui seraient coupables de ça, afin de convaincre la population qu'on ne laissera pas les koulaks se comporter comme ça. Les communistes de Penza et Evgeny Abosh n'applique absolument pas le télégramme. Et lorsque l'armée rouge, alors que les légionnaires tchécoslovaques sont à 45 km de l'endroit, et Lénine est terrifié à l'idée qu'ils vont prendre ce territoire, lorsque l'armée rouge arrêtera ceux qui sont accusés d'être assassinés, ils seront fusillés. Mais le télégramme ne recevra pas le moindre début d'application. Et ça, ça se répète des centaines de fois dans l'histoire de la guerre civile.
Oui, mais là, quand même, vous avez parlé l'un et l'autre des Koulaks. J'ai sous les yeux le livre de Vassili Grossman, « Tout passe oui. », son roman testamentaire. C'est un roman et un essai, une grande méditation sur le destin de la Russie. L'un des personnages, Anna Sergeyevna, a participé à la découlakisation, qui n'est pas imputable à Lénine, puisque elle a commencé en 1929 et elle a battu son plein en février et en mars 1930. Et Anna Sergeyevna nous dit qu'elle était comme envoûtée. Pasternak parlait de l'idéologie comme la domination inhumaine de l'imaginaire. Mais là, elle se rend compte qu'elle s'est trompée. Elle n'est plus envoûtée. Et puis elle a vu les hommes à l'œuvre. Et je cite Grossman, le monologue de ce personnage, Anna Sergeyevna. « Plus j'y pense, plus je me demande qui a inventé ce mot, les Koulaks. Est-il possible que ce soit Lénine? Quelle damnation il encourt. Pour les tuer, il fallait déclarer les Koulaks, ce ne sont pas des êtres humains. Tout comme les Allemands disaient, les Juifs, ce ne sont pas des êtres humains. C'est ce qu'ont dit Lénine et Staline. Les Koulaks, ce ne sont pas des êtres humains. Mais ce n'est pas vrai, c'était des hommes. Voilà ce que j'ai compris peu à peu. Nous sommes tous des êtres humains. » Bon, donc, là, elle instaure une sorte quand même de filiation entre Lénine et Staline, même si la vraie politique de découlakisation, d'anéantissement des Koulaks, a commencé avec Staline. Quelque chose était déjà à l'œuvre dans le verbe léniniste, et peut-être pas seulement dans le verbe, Dominique Collard.
Je pense que Lénine a appliqué de façon, on peut dire, mécanique aux campagnes russes la tripartition de classes qu'on trouve chez Marx. Paysans pauvres, paysans moyens, paysans riches. Et ces paysans riches, il les baptise, c'est pas lui qui a inventé le terme, de Koulak, et cette terminologie, elle est élaborée par lui au début du siècle, et même à la fin du 19e siècle, dans son grand livre sur le développement du capitalisme en Russie. Et il s'imagine, à partir de 1917, de la révolution de février, que les Koulaks sont des accapareurs qui stockeraient du blé, dont on ne sait pas comment ils arriveraient à le produire dans les conditions terribles de la guerre, qui évidemment touche aussi les arrières. Mais il imagine donc qu'il y a des accumulateurs qui, accaparant, produiraient la famine dans les villes. Et il a donc, à partir de là, la logique qu'il faut se débarrasser de ceux qui l'appellent de façon constante, comme une vermine, des insectes nuisibles, des parasites. Le parasite, c'est celui qui vit de la vie de l'autre. Alors, on peut dire que c'est de l'hyperbole. On peut dire que c'est du vocabulaire qui n'aurait pas de conséquences pratiques. Mais cela crée ce qu'on pourrait appeler une culture politique. Cela crée des représentations. Cela crée un certain nombre d'images, un certain nombre de schèmes intellectuels. Et si certains ne vont pas, en quelque sorte, s'y plier, vont résister, en quelque sorte, à cette vision qu'a Lénine qu'il y aurait à épurer la société russe, eh bien, d'autres vont, au contraire, s'y engouffrer dans cette logique. Et parmi ceux-là, Staline, dont l'éducation politique a été faite par Lénine.
Jacques-Marie.
Oui, il faut revenir sur ce qui se passe en 1917. Le gouvernement provisoire, en septembre 1917, double le prix du blé. Et le ministre du Ravitaillement dit « Si ça ne suffit pas à obtenir le blé des paysans, nous enverrons du détachement militaire. » Les bolcheviks prenant le pouvoir annulent la fixation des prix du blé par l'État. Le résultat, au mois de novembre, 50% d'augmentation du prix du blé, au mois de décembre, 30%. C'est-à-dire qu'il y a effectivement du blé ici et là, ici ou là, et celui qui est le plus déchaîné contre les paysans qui le gardent pour faire de la vodka ou pour le vendre à des prix élevés, c'est Gorki. Dans son journal, on trouve des phrases extrêmement violentes contre les paysans accapareurs. Il n'utilise pas le terme Koulak, qui remonte au 19e siècle d'ailleurs. Et donc il y a là une question de fond. Le paysan est à la fois un producteur, un travailleur et un commerçant. Il veut vendre son blé le plus cher possible, sinon il ne le vend pas. Même s'il n'y a rien à acheter avec les roubles qu'il en cumule, parce que l'industrie ne produit plus rien. Donc il y a une situation dont il faut sortir, d'où la réquisition instaurée à partir du mois de juin 1918, réquisition qui mènera à des affrontements, parfois d'une extraordinaire violence, la violence étant d'ailleurs, si j'ose dire, largement partagée. Lors de la révolte des paysans de Tioumen et d'Ichim, ils exécuteront 2000 communistes, leur arracheront les yeux, leur ouvriront le ventre en mettant une petite pancarte « réquisition terminée ». Et parfois, les plus violents prendront des membres des détachements de réquisition vivants, les allongeront sur des tréteaux et les scieront vivants. Ce qui en dit long d'ailleurs sur l'atmosphère qui règne dans ce pays au lendemain de la révolution de février, puis d'octobre, dans cette décomposition générale.
Oui, mais Jean-Jacques Marie, ce que vous dites là me rappelle la discussion qui a eu lieu il y a de nombreuses années maintenant autour de la Révolution française, entre François Furet et un certain nombre d'historiens, disons marxistes, qui expliquaient la terreur par les circonstances. Et Furet disait, l'idéologie jacobine et terroriste fonctionne largement comme une instance autonome, indépendante des circonstances politiques et militaires, lieu d'une surenchère d'autant plus indéfinie que la politique est déguisée en morale et que le principe de réalité a disparu. Et il donne cette définition qui peut, je crois, en partie s'appliquer à la révolution russe. La révolution, c'est l'imaginaire d'une société devenue le tissu même de son histoire. Parce que tout de même, quand Lénine dit qu'il s'agit pour la dictature du prolétariat d'empoigner le vieux monde d'une main de fer, quand il célèbre la volonté unique, c'est bien quand même qu'il a une certaine idée de la politique et qu'il est allergique, en quelque sorte, en raison même de son idéologie, à toute forme de pluralisme. Alors, les circonstances lui imposent un certain nombre de décisions, mais il me semble que cette allergie dont je parle est antérieure aux circonstances et qu'elle guide aussi une part de son comportement. Jean-Jacques Marie.
Je ne crois pas qu'on puisse dire ça, parce que jusqu'à la révolution de février, Lénine se battait pour ce qu'il appelait la révolution démocratique. Il considérait que l'instauration de la démocratie en Russie devait être le premier résultat de la révolution. C'est quand il arrive en Russie en avril 1917 qu'il abandonne cette idée, considérant que la révolution pour instaurer la démocratie s'est réalisée, mais que le résultat, c'est la bourgeoisie qui a le pouvoir et qu'elle continue la guerre et qu'elle plonge le pays dans le désastre. Ce qui va d'ailleurs se vérifier. Donc je ne pense pas qu'il y ait une vision de la dictature politique comme étant la forme supérieure de la politique. C'est une vision qui est liée à l'idée qu'il y a un combat absolument impitoyable face dans lequel la petite république soviétique est confrontée à un ennemi qui n'est pas seulement national mais qui est aussi international. Il y a une guerre mondiale contre le bolchevisme, même si elle se limite à l'Europe. Clémenceau, le 21 janvier 1919, dit « Si le bolchevisme progresse, si le bolchevisme gagne l'Italie, l'Europe est menacée. » Il y a même si l'aide militaire factuelle aux armées blanches sera militairement assez réduite, mais sur le plan matériel très développé, vous avez un combat qui a effectivement une réalité mondiale, au moins européenne. Et il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de discussion possible, il n'y a pas de troisième voie possible, c'est ou l'un ou l'autre. C'est ce qui est résumé souvent par Kto Kavo, le verbe russe. Et je ne pense pas que ça représente une vision politique définitive de ce qu'est, de ce que doit être le combat politique. Et ce que dit Furet, à mon avis, efface largement la réalité dans laquelle se trouvait la République française en 1793. La réalité du combat des émigrés en Prusse, en Angleterre, les Vendéens, les Anglais, etc., c'est une réalité qu'il est difficile d'effacer.
Nicolas.
Lénine est animé dans une série de ses déclarations, de ses textes, mais aussi de ses décisions, par une haine de la démocratie. Il prend souvent le temps d'écrire des analyses critiques destructrices des principes de l'égalité et de la liberté. Il revient de façon régulière contre les idéaux parlementaires. Et évidemment, on a tous en tête le fait que la seule assemblée élue au suffrage universel, même si c'est dans des conditions complexes, qui a pu se réunir en Russie au début 1918, a été dissoute par Lénine, c'est l'Assemblée constituante, non pas parce que il aurait simplement été mécontent des résultats de cette Assemblée constituante, mais c'est parce qu'il refuse même le principe de la démocratie représentative. Et il remplace, si je puis dire, dans le dispositif politique, la démocratie représentative par le primat du parti. Il faut se rappeler, on parlait tout à l'heure du coup d'octobre, révolution ou insurrection, que ce sur quoi a débouché la prise du pouvoir en octobre 17, c'est sur la mise sur pied d'un gouvernement qui était composé à 100% de bolcheviks, sans aucune alliance, sans recherche des alliances, et que Lénine refusait radicalement, contre d'autres bolcheviks qui lui en étaient partisans, un rapprochement avec les mencheviks ou avec des groupes socialistes qui avaient des idéaux de transformation sociale de la Russie, et pas simplement des idéaux de transformation politique, mais des idéaux de transformation profonde de la Russie. Lénine l'a refusé et il a élaboré cette doctrine évidemment tout à fait originale, exorbitante et jamais vue jusque-là, que le pouvoir devrait être assuré par un parti unique dont on pourrait dire qu'il a joué le rôle d'infrastructure de la société.
Oui, alors en plus, on peut s'interroger sur le lien entre la terreur et les circonstances. On peut aussi pousser plus loin le questionnement et se demander s'il n'y a pas un lien entre la terreur et l'utopie. Et d'ailleurs, Dominique Collat, dans votre livre, vous citez l'exemple de la guerre des paysans de 1525, qui voulait réaliser le paradis sur terre ici et maintenant. Vous dites que Luther et Calvin pensaient, eux, qu'il existait un intervalle, un écart, que les hommes ne devraient pas chercher à supprimer entre le royaume de Dieu et la société civile. Or, Engels, en 1850, dans la guerre des paysans en Allemagne, que Lénine a lu et à laquelle il renvoie plusieurs fois, réhabilite les fanatiques du XVIe siècle et il interprète le début du protestantisme en termes de lutte des classes. Mais aussi, et ça c'est très intéressant, vous parlez de la rencontre entre Bertrand Russell et Lénine, et Bertrand Russell, qui avait plutôt de la sympathie a priori pour la révolution d'octobre, pense que le léninisme a ceci de commun avec l'islam, qu'il s'agit d'une religion qui entend conquérir le monde, les armes à la main. Donc il parle à propos du chef bolchevique d'orthodoxie étroite et têtue, et revenant à la comparaison avec la croyance religieuse, il dit que l'amour du paradis et du paradis réalisé sur terre l'emporte sur l'amour de la liberté. Alors, lien entre terreur et circonstances, peut-être, mais lien entre terreur et utopie, il faut aussi se poser la question, Jean-Jacques Marie.
Mais où est l'utopie, là? Qu'est-ce que le gouvernement bolchevique promet ou propose en octobre 1917? La terre aux paysans qui l'ont déjà prise assez souvent, l'arrêt de la guerre, c'est-à-dire des discussions de paix pour arrêter la guerre, et ensuite un certain nombre de mesures qui seront prises dans les semaines qui suivent la prise du pouvoir, qui sont des mesures de réforme politique civile que le précédent gouvernement n'a pas prises et qui peuvent apparaître très modestes d'ailleurs, mais qui sont très importantes dans cette société. Le mariage civil, le droit au divorce, la séparation de l'Église et de l'État, l'instauration d'un État civil qui n'existait pas. C'était les religions qui tenaient leur propre État, pas civil d'ailleurs. Et puis ensuite, l'annulation de la dette qui avait été entassé par le régime tsariste, essentiellement pour moderniser son armée, dette auprès des banques anglaises, françaises et allemandes. Où est l'utopie là-dedans? D'ailleurs, c'est dans le livre de Heller et Nekritz, ils définissent l'utopie. Les bolcheviks ont promis la paix, la terre et le pain, et et on a eu la guerre. Si la paix, la terre et le pain, c'est l'utopie, alors l'utopie, c'est vraiment très modeste. Ah, je voudrais ajouter une chose, excusez-moi. Si les bolcheviks ont constitué un gouvernement, ils étaient seuls en octobre 17, c'est parce que personne d'autre n'a voulu s'associer à eux, à commencer par les SR de gauche, qui s'associeront en décembre.
de Nicolas.
Le terme que j'ai utilisé, c'est effectivement le terme de fanatisme. Je crois que Lénine a un raisonnement qui est en apparence rationnel. Il imagine qu'on va créer à terme, pas immédiatement, mais qu'on va créer une société socialiste, communiste, que dans cette société, il n'y aura plus de classe sociale et que le bénéfice pour l'humanité sera si important que le coût d'entrée est négligeable. Et c'est ça qui définit le fanatisme. C'est ce biais qui fait rentrer un bonheur infini dans les perspectives de l'humanité. Et donc, la violence, l'extermination des ennemis apparaît comme négligeable par rapport à ce but.
Alors, j'en viens maintenant à une ultime question. Lénine subit des attaques cérébrales à partir de 1921, je crois. Son activité se réduit et il y a ses dernières notes testamentaires où il fait référence à Staline, à son caractère extrêmement dur, et il pense qu'il devrait être écarté. Est-ce que ça devrait nous conduire à penser que la révolution avec Lénine aurait suivi un autre cours ? Staline est-il le continuateur de Lénine ? Ou introduit-il une rupture que Lénine avait anticipée avec le cours de la révolution tel que Lénine l'a souhaité?
Pour moi, Staline est l'incarnation de ce qui se dessine dès 1921-22, d'un appareil qui, dans une situation de pénurie très grave et d'isolement de la Russie soviétique, puisque la révolution a été battue en Allemagne, en Hongrie, en Autriche, en Italie, ce qui va d'ailleurs déboucher sur la victoire du fascisme, c'est la revanche de la bourgeoisie nationale, un appareil se développe et Staline va être le représentant de cet appareil qui va partager les maigres richesses à son profit et d'ailleurs qui va assassiner la quasi-totalité de ceux qui ont fait la révolution en octobre 1917.
Dominique Collard.
Staline a été formé par le bolchevisme. Il a été couvert dans un certain nombre des exactions qu'il a commises en 1918 par Lénine. Staline a réalisé des massacres à Tsaritsyn, futur Stalingrad, futur Volgograd, et Lénine a accepté cet état de fait, ces violences dont il a eu connaissance. Et donc, à mon sens, Staline n'est pas en écart par rapport à Lénine, mais il est d'abord son élève. Alors c'est vrai que dans les dernières semaines de la vie de Lénine, pour une série d'incidents complexes, peut-être inextricables, Staline a été accusé par Lénine de faire preuve de trop de brutalité, on pourrait dire aussi grossièreté, de rudesse dans ses mœurs. Il injuriait des camarades, sans doute, avec une véhémence que Lénine désapprouvait. Mais si on essaye de penser le destin de la Révolution, j'ai relevé que en 1920, sur 90 000 tchéquistes, la moitié étaient membres du Parti communiste. Et donc, il y avait 45 000 communistes qui étaient en même temps tchéquistes. Si on ajoute à ces 45 000 tchéquistes et communistes ceux qui appartenaient à l'armée au sein du parti, on a la vision d'un parti communiste dont la masse, le noyau dur, si je puis dire, ce n'est pas les prolétariats, c'est évidemment pas du tout les paysans, mais c'est l'appareil de violence qui professionnalisé et qui va prendre de plus en plus de place à l'époque de Staline.
Un dernier mot, peut-être, Jean-Jacques Marie, un tout dernier mot.
Oui, ben, il faut pas oublier qu'en 1920-21, la guerre civile a quasiment tout détruit le pays, les chemins de fer ne marchent plus, donc... Il est évident que la classe ouvrière est atomisée, explosée. C'est le résultat, entre autres, de la victoire, de la défaite de la Révolution dans les pays voisins.
Bien. Bon, écoutez, nous terminerons là la discussion sur l'expression de ce désaccord. Et j'aurais aimé vous interroger aussi sur les derniers mots du testament de Vassili Grossman, quand il parle de la connexité en Russie du progrès et du servage, alors que l'Occident, c'est la connexité du progrès et de la liberté. Et il dit Lénine a voulu rompre ce lien fatal, et en fait, selon lui, il l'a malheureusement perpétué. Mais ça demanderait encore une heure de discussion. Cette heure, nous ne l'avons pas. Je voulais vous remercier tous deux. Rappelez le titre de vos livres. Jean-Jacques Marie, Lénine, la révolution permanente. Le livre est paru chez Payot, et vous venez de publier un livre sur les femmes dans la Révolution.
Oui, au Seuil.
Aux éditions du Seuil, Dominique Collat, Lénine. Ce livre est publié aux éditions Fayard. Vous trouverez toutes les références bibliographiques sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est téléchargeable pendant un an et écoutable à vie. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « À la recherche du temps présent ». Mes invités seront Benoît Dutertre et Patrice Jean. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et Alexandra Malka. À la technique aujourd'hui, Pascal Bernard. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.